Bonjour à toutes et à tous. Il est 12h30. On va commencer dans les temps. Voilà, s'il y a quelques retardataires, ça leur permettra de nous rejoindre. Au nom de toute l'équipe de la Guerrerica, je suis très heureux de vous présenter le dernier rendez-vous de la saison des Entre Midi et Sciences. Nous sommes en train de préparer la programmation pour la rentrée prochaine qui débutera dès le mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le thème des transitions et nous allons nous intéresser plus particulièrement à notre consommation. Aujourd'hui, de plus en plus de Français sont sensibles aux conditions, aspirent en tout cas à plus d'environnement et plus d'éthique dans leurs assiettes. Les distributeurs d'ailleurs l'ont très bien compris, puisqu'on a vu fleurir un certain nombre de labels ces derniers temps, il y en a plusieurs, même plusieurs dizaines, qui nous garantissent à la fois plus de respect de l'environnement et aussi plus de respect du bien-être animal. Donc c'est vraiment l'objet de notre questionnement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à travers ces labels que vous connaissez quasiment tous, si j'en cite comme ça de mémoire, le label rouge, AB, j'en ai quelques-uns, mais je pense qu'il y en a encore bien plus, ont-ils tous la même valeur ? Qu'est-ce qui se cache derrière finalement ces étiquettes ? Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser à nos deux experts que nous avons invités. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a tout d'abord Pauline, que j'écorche pas votre nom, Nicole Antonio. Merci. Présidente de l'AJAS, donc qui est l'association Justice Animaux Savoie, et Monsieur Robert Mondeau, que nous avions déjà invité sur un autre café débat, c'était sur les indicateurs. On s'interrogeait sur le Nutri-Score en particulier. Donc vous êtes président de l'association UFC Que Choisir de Chambéry. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Entre Midi et Sciences, donc ça dure une heure, c'est extrêmement contraint au niveau temps. Nos invités ont une demi-heure pour nous présenter les tenants et les aboutissants de cette problématique, et ensuite on gardera la demi-heure suivante justement pour échanger et débattre avec vous. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation, et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Et il y a même deux micros, donc
ça fonctionne. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de tenir le temps. Très rapidement, l'association que je représente aujourd'hui, c'est l'association Justice Animaux Savoie, qui a été créée en 2014 et dont le siège est à la Maison des Assos à Chambéry, et qui, comme son nom l'indique, est une association de protection animale de Savoie, dont l'objectif c'est d'essayer de réduire un maximum la souffrance des animaux, quels qu'ils soient. Donc, par exemple, les animaux qui sont détenus dans les cirques. On a une campagne actuellement contre la chasse à la marmotte. On fait aussi des ateliers de sensibilisation sur le modèle de la fresque du climat, qui est une fresque des animaux. On en organise assez régulièrement dans les établissements scolaires, mais aussi à la maison des associations, ou dans des bars comme au Bruit qui court, par exemple. Donc on agit via différents moyens. On travaille aussi avec les élus. Là, on revient de l'inauguration du premier pigeonnier contraceptif à Aix-les-Bains ce matin, par exemple. Quelques actions. Donc ça, c'était hier, la zoofresque au lycée du Granier, la campagne contre la chasse à la marmotte. Comme aujourd'hui, effectivement, il y a 3 millions d'animaux qui sont abattus chaque jour dans les abattoirs en France, notre association est aussi positionnée sur ces thématiques-là, des animaux destinés à la consommation alimentaire et des animaux d'élevage. Et nous, notre philosophie, c'est de dire, effectivement, donc on est omnivore, donc l'homme est omnivore, il mange de la viande. Par contre, il a effectivement une conscience et il a aussi des connaissances et il sait aussi qu'il peut s'abstenir d'en manger et être en bonne santé. Santé à condition de manger équilibré. Donc notre association fait la promotion des alternatives végétales, que ce soit dans la restauration collective ou auprès des citoyens. Et donc le petit clin d'œil, c'était l'année dernière, on a fait le record du monde de la plus grosse tartiflette végane au manège. Voilà, pour histoire de, voilà, c'était un peu le clin d'œil, histoire de dire qu'on peut aussi végétaliser des classiques. Maintenant, on se leurre pas, on est aussi très pragmatique. On sait qu'il y a de l'élevage en France, qu'il y a des gens qui se posent des questions, mais tout le monde n'est pas forcément végétarien ou vegan. Je pense que dans la salle, il y a tout type de personnes, tout type de régime alimentaire et tout type de réflexion. Et finalement, le plus important, c'est d'être là aujourd'hui et de se poser question. En fait, on chemine tous à des moments différents et on part de points de, qui sont aussi différents. On a tous chacun une histoire. Et donc, le plus important, finalement, c'est de se renseigner. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt des conditions d'élevage des animaux et des labels. Et on va commencer par, juste, j'ai un petit quiz interactif. Ce qui est très court puisque évidemment je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais juste vous proposer, je vais vous montrer quelques emballages de produits alimentaires. Et je vous propose de lever la main si vous pensez que ça vient d'un élevage intensif et de la laisser baisser si vous pensez que ça vient d'un élevage dit alternatif, c'est-à-dire non intensif. Donc cette boîte de paroles d'éleveurs, exploitation familiale, est-ce que vous pensez donc que c'est de l'élevage intensif ou de l'élevage non intensif? Je passe à la suivante. Ce rôti de chapon, maître coq, la volaille française. Ce crottin de chavignol, AOP, appellation d'origine protégée. Cette bûchette de chèvre soignon bio, j'en ai plus beaucoup, mais il y a quand même quelques produits. Cet emmental de Savoie. Ce jambon supérieur bon et bio, porc français Aldi. Et pour. Non, c'est l'avant-dernier. Les rillettes pur porc à l'ancienne label rouge. Et enfin, le dernier, ce jambon bien élevé, brossé liande, sans antibiotiques, porc français. J'avais envie de dire, je vous rassure, mais en fait, je ne sais pas si c'est très rassurant, mais j'ai fait ce quiz à l'Assemblée nationale auprès d'élus et ils n'avaient pas forcément plus juste que vous. Alors, ce n'est forcément pas très rassurant non plus, parce qu'ils sont censés quand même savoir. Mais c'est, malheureusement, en fait, c'est flou. Aujourd'hui, c'est flou pour plusieurs raisons. La raison du fait que... Donc, mon camarade de UFC que choisir et reviendra sur le fait que la notion de bien-être animal est assez floue, sur le fait qu'aujourd'hui on a des industriels et du marketing qui aussi enrobent, amplifient et donc du coup c'est très difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Et aussi, et c'est, je vais peut-être m'attarder un peu plus là-dessus moi pour ma présentation, sur la notion d'élevage intensif. Aujourd'hui quand on parle d'élevage intensif, on a une vague idée de ce que ça peut être, mais finalement la définition exacte, assez peu de personnes peuvent la dire. Et trop souvent, on pense que l'élevage intensif, c'est pas chez nous, c'est les feedlots aux États-Unis avec ces vaches entassées, que c'est en Ukraine, les poulets qui sont dans des bâtiments à perte de vue, que c'est en Chine, ce bâtiment de 26 étages avec 650 000 cochons. Alors effectivement, tout ça, c'est des élevages intensifs, on est tout à fait d'accord. Puisque, effectivement, voilà. Mais ça, c'est le modèle d'élevage de cochons français classique, hein, puisque 95% des cochons sont détenus c'est en Bretagne, mais parce que la majorité des élevages de porcs en France sont en Bretagne. Mais finalement, pour le cochon, qu'il soit au 26e étage en Chine ou qu'il soit au rez-de-chaussée en France, eh ben, les conditions d'élevage sont très très similaires. Et quand on parle en plus, par exemple, de l'Ukraine, au niveau de l'Union européenne, il y a une législation qui est européenne, donc en fait qui est harmonisée sur les densités et autres. Donc en réalité, il ne faut pas qu'on parle en termes de taille d'élevage. Il ne faut pas confondre intensif et industriel. Alors souvent, quand c'est industriel, c'est souvent intensif, c'est-à-dire quand c'est industriel, que c'est des grandes exploitations, souvent ça va de pair avec l'intensification, mais pas que. Et donc il faut qu'on change un peu ce prisme de se dire, puisque c'est un élevage où il y a beaucoup d'animaux, que ce sont des grandes installations, c'est forcément intensif ou l'inverse. Parce que ça revient souvent à se dire, on est meilleur chez nous qu'ailleurs, et c'est pas forcément le cas. Il y a des bons élevages, mais il y a aussi, aujourd'hui en France, 80% des animaux en France qui sont détenus en élevage intensif. Et donc, comment faire pour finalement privilégier ces 20% restants et faire que ces 20% deviennent demain 80% et pas l'inverse? Donc, s'il y a une chose à retenir de l'élevage intensif, de qu'est-ce que l'élevage intensif, c'est vraiment ce facteur-là, c'est la claustration intégrale. C'est-à-dire que des animaux détenus en élevage intensif ne voient jamais la lumière du jour. Toute leur vie sont dans des bâtiments ou des cages fermées. Donc, c'est le cas de 80% des animaux en France. Ça amène plusieurs problèmes. En fait, la claustration amène plusieurs problèmes. C'est pour ça que s'il y a un critère à retenir, c'est celui-là. C'est que, bah, en bâtiment, forcément, il y a des densités élevées. Forcément, ils sont dans un environnement qui est extrêmement pauvre, c'est-à-dire qu'ils sont au mieux sur la litière pour certains animaux, au pire, comme c'est le cas pour les cochons, juste sur du béton ou sur du caillebotis. Et donc finalement, ces animaux, par exemple, je prends l'exemple d'une poule, une poule, naturellement, elle a besoin de picorer, de gratter le sol, de prendre des bains de soleil, de poussière. En fait, tout ça, dans un bâtiment qui est complètement nu, qui est complètement pauvre, elle ne peut pas le faire. Donc du coup, oui, un environnement qui est pauvre, voire insalubre, et une absence de stimulation extérieure. Donc c'est le cas de la majorité des élevages, y compris en chèvres. Ça, c'est un deuxième biais qu'on a souvent. Le premier, c'est la taille de l'élevage. Et le deuxième, c'est, si j'ose dire, la vache qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'en France, on a cette chance qui est vrai que l'élevage bovin est extensif, relativement extensif, puisqu'il n'y a que 7 à 8 % de zéro pâturage. Donc on a la majorité des vaches françaises qui sortent et on les voit dans les prés, et c'est une très bonne chose. Par contre, c'est la seule filière. C'est la seule filière, c'est-à-dire que toutes les autres filières, la majorité des animaux sont dans des bâtiments. On ne voit pas de pintade dehors, on ne voit pas de dinde dehors. Les rares cochons qu'on voit dehors, en général, c'est des petites exploitations et ce n'est pas le gros de la production, etc., etc. Et on a ce biais-là aussi parce qu'on est en Savoie et qu'en Savoie, il y a quelques chèvres qui pâturent en montagne, mais 60% des chèvres en France, et le crottin de Chavignol en fait partie, c'est des productions à majorité où les chèvres sont enfermées dans des bâtiments fermés toute leur vie. Donc à cette claustration intégrale, on peut aussi ajouter d'autres problématiques qui fait que les animaux ils sont stressés, ils ne sont pas dans des bonnes conditions, c'est pas adapté à leur bien-être, mon collègue reviendra sur la définition, et donc forcément va être amené à certaines pratiques cruelles, puisque les poules vont se piquer entre elles, les cochons vont se mordre la queue, et donc on va leur couper le bec, on va leur couper la queue, les vaches, on va aussi, ou les chèvres, les écorner pour que ça corresponde aux cornadis, au bâtiment d'élevage. Après, c'est pas tout lié à la claustration, il y a aussi des pratiques cruelles comme le gavage ou la castration des cochons qui se fait aussi en élevage plein air malheureusement. Et le dernier facteur qui fait qu'on reconnaît un élevage intensif aussi, c'est la sélection génétique qui est préjudiciable. Alors, aujourd'hui, tous les animaux sont sélectionnés génétiquement. Ce ne sont pas des OGM, ce ne sont pas des organismes génétiquement modifiés, mais ils sont tous sélectionnés génétiquement, c'est-à-dire que sur plusieurs lignées, on sélectionne sur certains critères. Dans les élevages plein air, comme les animaux sortent, ils sont abattus généralement un peu plus tard et ils sont un peu plus robustes parce que forcément, il faut qu'ils puissent faire face à des aléas climatiques, entre guillemets, plus de bactéries ou de maladies. Quand ils sont enfermés à l'intérieur, ils sont confinés, ils sont dans une atmosphère qui est complètement aseptisée. Et donc, on les sélectionne, les races ou les souches d'animaux qu'on sélectionne sont vraiment destinées uniquement sur le critère de produire beaucoup et vite. Les poulets qui sont élevés intensivement, quand on les mange, ce sont des poussins. Ils ont 35 jours, ils ont un mois en fait, les poulets. Parce qu'ils sont sélectionnés pour vraiment grandir le plus vite possible, ce qui amène des problèmes de santé extrêmement conséquent. Moi, j'ai pu faire un stage dans une ferme refuge qui récupérait les animaux. J'aurais dit, mais pourquoi vous n'avez pas de poulets ? En fait, ils n'ont pas de poulets parce que ils en ont déjà essayé de récupérer. Mais c'est des animaux qui ne sont pas viables, qui ne peuvent pas vivre. En fait, ils sont tellement difformes, ils ont des problèmes locomoteurs, ils ont des fractures. Beaucoup souffrent de problèmes cardiaques aussi parce que l'oxygène a tellement été sollicité pour le développement musculaire que, en fait, ils peuvent souffrir de crises cardiaques. Aujourd'hui, on a ça dans nos élevages. Maintenant, la côté positif quand même, c'est qu'effectivement, le consommateur a des leviers. On mange 3 fois par jour. Donc 3 fois par jour, on peut décider de ce qu'on met dans nos assiettes et de faire des choix qui soient plus respectueux des animaux. Sur la partie abattoir, je ne vais pas en parler parce que pour le coup, il y a plein air ou pas plein air, ils finissent tous dans les mêmes abattoirs. Le transport, je vais très peu en parler aussi, puisque en dehors de la production du coup locale, il y a assez peu de transparence sur les conditions de transport des animaux, et on sait aujourd'hui qu'il y a une législation sur les transports d'animaux, mais qu'elle est assez partielle et qu'il y a des très longs temps de transport. Par contre, là où vous avez le plus de levier, si vous consommez des produits d'origine animale, c'est sur les conditions d'élevage. Donc je vais être très succincte, puisque du coup, mon collègue va y revenir, mais grosso modo, les labels à privilégier pour les labels plein air, c'est effectivement en l'absence de label bien-être animal, c'est le label bio et le label rouge. Mais attention, pour ce qui concerne les oiseaux, c'est-à-dire les poules, les poulets, les pintades, les dindes, etc. Parce que ça garantit le plein air et le pâturage. Attention au label rouge pour le porc, puisque en fait, le label rouge sur le porc ne garantit pas l'accès au plein air des cochons. Pour les œufs, bah, vous les connaissez sans doute, il y a un code sur les œufs, donc le code 0 ou 1 qui garantit le plein air. Et pour les fromages, alors j'avais mis à disposition une petite fiche qui est sur la table. En fait, on a énormément de fromages en France, on a beaucoup d'AOC, d'AOP. Et en fait, chaque AOC et chaque AOP a un cahier des charges spécifique. Et donc, par exemple, là, l'Emmental que vous avez vu, malheureusement, n'oblige pas le pâturage. Par contre, le reblochon, j'aurais pu le montrer, un reblochon qui, là, il y a une présence de pâturage qui est obligatoire. Donc là, il faut ouvrir l'œil. En France, grosso modo, les fromages de vache AOP ou AOC sont à peu près, permettent l'accès au pâturage. Par contre, attention en chèvre. C'est pour ça que le petit piège qu'il y avait, c'était la bûche. Il vaut mieux consommer une bûchette de chèvre soignon. C'est peut-être Lactalis, je ne sais pas, mais en tout cas, les chèvres sont sorties parce qu'elles étaient bio. Il y a du non bio aussi hein, chez Soignon, évidemment, qu'un crottin de chavignol. Voilà. Ça peut paraître contre-intuitif, mais sur le fait de l'accès à l'extérieur des chèvres, c'est ça. Donc attention, c'est l'équivalent du greenwashing, mais c'est ce qu'on appelle l'animal welfare washing, donc le washing autour du bien-être animal. Donc sur, comme je le disais, et on a très peu parlé des poissons, le label rouge pour les poissons, c'est pareil, il n'y a pas de garantie en termes de conditions d'élevage. Il faut savoir que le label rouge, c'est un label organoleptique qui certifie le goût du produit et non pas les conditions d'élevage derrière. Donc pour les oiseaux, il s'avère que le plein air est obligatoire, mais c'est un peu l'exception. Donc attention aux labels et aux étiquetages, mon collègue y reviendra plus longuement que moi. Et attention, dernière chose, et j'en terminerai là, aux produits animaux dits cachés. En fait, les produits animaux, on les retrouve partout. Quand vous allez acheter une brioche à la boulangerie, il y a des œufs, il y a du lait. Quand vous commandez même une pizza 4 fromages, il y a du fromage, il y a peut-être de la crème. Quand vous prenez une salade avec du thon et des pâtes aux œufs, il y a des pâtes aux œufs et il y a du thon. Donc en fait, à force de dire que je suis jeune, je ne suis plus très jeune, mais en tout cas, ça fait vraiment longtemps que je suis en association de protection animale. C'est une conviction qui est venue assez jeune. Depuis toujours, j'entends parler les gens qui disent je mange moins de viande. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'il n'y a pas que la viande rouge et que la viande, les produits d'origine animale se trouvent partout. Et c'est peut-être un pavé dans la mare que je lance, mais un flexitarien, c'est-à-dire une personne qui mange moins de produits animaux, mais mieux, en réalité, je pense que elle ne peut pas manger à l'extérieur en étant flexitarien aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a très très peu de restaurants, il y a très très peu d'établissements où il y a des œufs bio, où il y a de la viande plein air ou label rouge. Et donc, en réalité, les personnes vraiment flexitariennes, en général, sont végétariennes, voire véganes, quand elles mangent à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de boulangeries aussi où il y a des œufs bio, etc. Voilà.
Parfait. Bon, moi je vais avoir un. Donc je suis le président de l'UFC Que Choisir à Chambéry et notre rôle dans ce domaine de l'alimentation, c'est surtout de permettre aux gens de savoir ce qu'ils font, mais avec leurs propres convictions. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas du tout sur les convictions des gens en matière alimentaire, on n'est pas prescriptif du tout. Par contre, on essaye de leur donner les éléments d'information qui leur permettent de se déterminer au mieux. Donc c'est dans ce cadre-là que je vous fais mon exposé. Attendez, il faut que je trouve aussi les boutons, là, ça va être ça. Voilà. Donc je vais poser 3 questions. Hein, de quoi parle-t-on? Que dit la règle? Et comment est-ce qu'on s'informe? Donc je vais aller assez vite. De quoi parle-t-on? Donc nous, on avait compris qu'on parle uniquement des animaux domestiques cette fois, parce que en termes de bien-être animal, il y a aussi une problématique animaux sauvages et il y a aussi une problématique animaux de compagnie qui sont pour nous sensiblement différentes. Ensuite, que dit la règle? Alors, la règle, il n'y a pas de règle, en fait. Enfin, si, il y a plein de règles, mais il n'y a pas de règle unique et définitive. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en France, on a commencé à parler du bien-être animal dans la loi de 76 sur la protection de la nature. Vous voyez un biais qui est souvent en France fait, c'est-à-dire que le bien-être animal est un sous-produit de la qualité de l'environnement. Dans les textes, c'est souvent ça. En fait, les vrais textes fondateurs, ce sont les directives de 98. Vous voyez, quatre directives de 98 européennes. Donc, la réglementation, normalement, sur le bien-être animal, elle est européenne maintenant. Sauf que vous notez bien que ce sont des directives et pas des règlements. Donc, vous connaissez la différence. Hein. La directive, elle nécessite des textes nationaux de mise en œuvre. Tant qu'il n'y a pas un texte national de mise en œuvre, elle n'existe pas dans le pays en question. Et les directives parlent beaucoup en termes d'objectifs, de grands cadres. Et après, eh bien, chaque État interprète. Donc, entre les différents pays européens, la législation reste assez différente parce que du fait de cette capacité d'évolution. Donc en France, je reviens en France, je vous ai dit qu'on n'était pas très très clair dans la mesure où on a effectivement les lois relatives à la protection de la nature qui parlent parfois de bien-être animal. On a le code civil qui n'est pas cohérent parce que entre les différents articles, le 515.4 dit que les animaux sont des êtres sensibles, doués de je ne sais plus quelle capacité, reconnaît que les animaux sont des êtres dotés de sensibilité. Et le 524, lui, classe dans les fermes les animaux comme des biens immeubles. Donc vous voyez, on a du mal à avoir la cohérence. Alors, nous, à l'UFC Que Choisir, on a tendance à croire la science, donc on a tendance à adopter la définition qui a été validée par l'ANSES, qui est une définition originaire de Grande-Bretagne et de sociétés savantes de Grande-Bretagne. Et donc, vous voyez, on appelle ça les cinq libertés fondamentales, c'est-à-dire qu'on estime que le bien-être animal est respecté si, pour un animal, ces cinq libertés que je vous laisse lire sont respectées. C'est très bien, mais ça reste, vous le voyez, quand même assez générique. Et après, il y a un problème de traduction qui peut être un peu compliqué. Donc, voilà pour la règle. Maintenant, passons à la troisième question. Comment, finalement, s'informe-t-on quand on achète un produit alimentaire? On a en tête le respect du bien-être animal. Comment peut-on se faire une idée. Et là, je rejoins le quiz de tout à l'heure. On va se retrouver sur certains points. Alors, vous voyez, on a quatre possibilités. On a la possibilité de croire à la publicité. On a en tête une série d'équivalences non dites, mais qui sont bien là. On a des labels. Donc, faut-il y croire, faut-il pas y croire? Et enfin, soyons fous, soyons à la mode, on utilise une appli, bien évidemment, et quelles sont les applis qu'il faut utiliser pour avoir de l'information sur le sujet? Alors, la publicité. La publicité, quand je vous montre une photo comme ça, ça vous fait rire, quoi. Enfin, comment dire, ou ricaner, j'en sais rien, mais le problème, c'est que collectivement, vous y croyez. Quand on fait des tests d'efficacité, des publicités de ce type-là marchent très bien. C'est pour ça d'ailleurs que regardez dans votre supermarché favori, vous verrez que des photos de ce type-là où le bonheur est intégral entre l'éleveur et ses animaux, vous en avez des tonnes. C'est pas par hasard. Hein. Donc sachez-le, même vous dans cette salle, vous allez me dire non, mais je crois jamais à ça. Ben si, vous croyez à ça dans la réalité. En termes d'équivalence, alors j'en ai mis un certain nombre. Hein. Mais là aussi, faites un peu d'introspection. Et puis regardez. Et vous n'êtes pas tenté de dire « Ah oui, là, ouais, c'est un producteur local. Là, ouais, bah, ce qu'il fait, c'est bien, quoi, obligatoirement. Il y a plein de producteurs locaux qui vous disent non, moi je suis pas labellisé bio, mais je fais quasiment de la bio, quoi. Et on le croit. Hein. Quand vous allez sur votre marché, a priori, vous avez la sensation que le producteur de Savoie qui est sur le marché, ben, il peut faire que des produits qui respectent et l'environnement et le bien-être animal. Et voilà. On en revient au bœuf. Si vous achetez du jeune bovin dans votre supermarché, vous dites « Ah ouais, d'accord, feedlock, c'est pas bien. » Mais si vous achetez du bœuf, puis du bœuf de 3 ans, alors là, vous dites, oui, c'est obligatoirement bien. Et, vous voyez, donc, vous avez dans votre tête, comme ça, une série d'équivalences que vous faites et qui vous font acheter ou pas acheter. Après, bien sûr, il y a les labels. Alors, dans les premiers des labels, ce sont les signes officiels de qualité. Aujourd'hui, il y en a 5. Oubliez le label AOC parce que c'est historique. Hein, c'était avant les AEP européennes, c'était le label français et les viticulteurs français, qui bien entendu sont meilleurs que tous les autres, n'ont pas voulu abandonner leur sigle, leur label AOC, et donc ont obtenu une dérogation des textes européens pour continuer sur les vins français à mettre AOC. Mais les vrais labels officiels de qualité, c'est les 5. Donc l'appellation d'origine protégée, avec une zone et un cahier des charges précis. L'indication géographique protégée avec une zone aussi, mais beaucoup plus large en général, de l'ordre de la moitié du département ou du département ou de deux départements, et avec un cahier des charges très léger. Le label rouge, qui lui est très centré sur la qualité organoleptique, là je répète aussi, du produit. C'est le label rouge, c'est le seul label qui a pour objectif de vous garantir un, entre guillemets, bon produit, ou un produit bon. Et puis vous avez la STG, la spécialité traditionnelle garantie, qui est une recette, en fait, c'est la protection d'une recette qui en France est très peu utilisée. La dernière STG est locale, puisque c'est le Bertou, en fait, hein, au Savoyard. Donc voilà, et puis au milieu, vous avez un signe officiel de qualité qui est l'agriculture biologique, qui ne devrait pas être là, mais qui, administrativement, qui dépend de l'INAO aussi, et donc qui est là. Alors, que dire de ces différents labels? Alors, je ne sais plus. Non, on va rester. Les 3 labels ronds, là, en matière de bien-être animal, ont très peu de spécifications, voire pas de spécifications. Et même l'AOP, le plus souvent, il y a des pratiques d'élevage, certes, mais qui sont plus pilotées par le désir d'avoir une image d'agriculture extensive, d'avoir l'image d'un agriculteur bien dans son territoire, que d'être motivé par un motif de bien-être animal. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais vous voyez, le point de départ n'est pas le même. Donc, les 3 sigles ronds, je pense qu'on peut les oublier pour ce qui nous concerne. Après, vous avez donc label rouge et AB, qui, eux, effectivement, abordent la question plus précisément. Donc là, j'ai essayé de vous faire un petit récapitulatif. Le label rouge, pour les animaux, impose le plus souvent des races rustiques ou plus rustiques par rapport aux élevages intensifs classiques. Ont des durées d'élevage plus longues, de 20 à 50% plus longues. Ont des densités d'animaux limitées dans les élevages et ont toujours un accès au plein air. Alors que ce soit du plein air intégral ou pas, mais ont toujours un accès au plein air. Donc, il y a incontestablement des préconisations relatives au bien-être animal. Mais en fait, c'est presque un sous-produit. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, l'objectif, c'est d'avoir un produit de qualité. Et pour avoir un produit de qualité, eh ben, il faut que les conditions d'élevage permettent la qualité du produit. Par contre, l'agriculture biologique, elle a dans ses objectifs, c'est un règlement de 2018 qui la régit actuellement, et elle a dans ses objectifs, vous voyez, contribuer à des normes élevées en matière de bien-être animal et en particulier répondre aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale. Ça, c'est dans le règlement européen et c'est le 4e item. Donc, on est à un niveau élevé de normes. Et donc, ben, voilà, il y a toute une série de pratiques qui sont interdites. Je ne vais pas vous les énumérer parce que vous avez des règlements secondaires pour chaque type de produit et avec des règles très précises. Donc, on ne s'en sortirait pas. Voilà. Mais malgré tout, l'agriculture biologique, là aussi, met bien en avant d'abord dans son discours l'environnement et la santé du consommateur. C'est clair. Hein, si vous achetez de l'alimentation biologique, souvent, c'est d'abord parce que vous pensez à votre santé, enfin, explicitement ou implicitement. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur les labels officiels. Et puis après, il y a d'autres labels publics dont on pourrait penser qu'ils ont un volet bien-être animal. Et en fait, ce n'est pas le cas. Le Nutri-Score, dont j'ai déjà parlé, le Nutri-Score, lui, il est complètement étranger à ça. Cherchez pas d'implication bien-être animal dans le Nutri-Score. C'est simplement la composition de l'aliment et sa qualité nutritionnelle. Le HVE, alors là, c'est rien en tout, en tout. C'est-à-dire qu'en termes de qualité de l'environnement, en termes de bien-être animal, en termes de respect de normes, c'est quasiment rien. Donc oubliez-le. En particulier, quand sur une bouteille de vin, vous voyez une étiquette HVE, ça ne veut rien dire. Voilà. Y a un label en préparation au niveau européen, mais qui, dans le contexte actuel, est plutôt en panne. Vous connaissez l'actualité européenne, où il y a un retour en arrière sur l'avancée en matière d'environnement global. Il y a une recommandation de l'ANSES là, que si vous avez le courage, vous lisez son rapport du 24 mars qui a été publié le 2 mai et qui fait toute une série de recommandations sur ce que devrait être une labellisation bien-être animal. C'est très intéressant, c'est techniquement très intéressant. Et puis il y a un éco-score qui se cherche. Alors, vous savez, l'éco-score, ça voudrait qu'il y ait sur chaque produit une indication de son impact environnemental. Et sur certaines versions de cet éco-score qui se cherche aujourd'hui, il y a un volet bien-être animal. Il y a ou il n'y a pas. Donc voilà, pour les labels publics, voilà ce qu'on peut dire. Vous voyez, pas grand-chose de très opérationnel. Et puis après, il y a les labels privés. Alors là... vous voyez, une association en avait recensé au moins 24 en Europe. En Suisse, le grand carré en bas à droite, c'est les labels privés en Suisse. Donc, vous voyez, ils en ont un bon paquet. Je dirais que les trois plus... J'ai mis en France les trois plus connus, si je peux dire, et encore. Biocohérence, c'est la bio plus plus, c'est les agriculteurs bio qui considèrent que le règlement européen n'est pas suffisant pour avoir de vrais produits issus d'agriculture biologique et qui ont donc mis des normes privées renforçant le règlement européen. Et dans ces normes qui renforcent, il y a des normes sur le bien-être animal. Il y a une étiquette associative. Alors là, c'est... Vous voyez, niveau bien-être animal, qui a été copiloté par trois associations pour le bien-être animal et le groupe Casino, à l'époque où il existait encore, qui a donné cette étiquette. Et puis, il y a, je vous ai dit que dans l'éco-score, il y avait beaucoup de réflexions sur le sujet. L'UFC Que Choisir, avec quelques autres associations, promeut ce qu'on appelle le Planet Score, c'est-à-dire qui a un volet plus pesticides, biodiversité, climat, et puis un volet mode d'élevage. Voilà, sur la partie privée, je passe. Et puis enfin, il y a l'application sur votre smartphone. Vous voulez acheter, vous scannez le code barre et vous vous dites est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Alors, je ne vous ai pas mis la multiplicité des applis parce qu'il y en avait une cinquantaine, mais les trois plus connues, hein, ce sont celles-là. Open Food Facts, c'est historiquement la base de données collaborative qui fait toujours référence et qu'utilisent d'ailleurs tous les autres. Yuka, je ne présente pas, c'est le succès commercial le plus fort. Et quel produit? C'est ce que nous, à l'UFC Que Choisir, nous avons construit, qui vaut pour les produits alimentaires, mais qui vaut aussi pour les produits cosmétiques et les produits ménagers, qui est plus polyvalent. Voilà. Et quand vous regardez ce que donnent ces applications, elles vous donnent tout le Nutri-Score ou équivalent. Yuka fait sa tambouille interne, mais qui prend pour 60% en compte le Nutri-Score. Et puis, elle donne d'autres indications. Et dans les autres indications, chez Open Food Facts, je vais y arriver, Open Food Facts, il n'y a pas d'indication bien-être animal. C'est-à-dire que vous êtes sur d'autres critères, en particulier sur les produits ultra-transformés ou sur les contaminations possibles. Mais il n'y a pas ce volet-là. Sur quels produits il n'y est pas, mais pour très peu de temps, puisque dans les mois qui viennent, ça nous a annoncé pour l'été, on aura justement le score environnemental que je vous ai indiqué avant, qui sera indiqué pour chaque produit. Vous voyez, le Planet Score, eh bien, d'ici quelques temps, il figurera quand vous scannerez un produit alimentaire animal, quand vous scannerez un produit alimentaire général, vous aurez ce classement environnemental. Voilà ce que je pouvais vous dire à toute vitesse sur l'existant en matière d'information sur le bien-être animal.
Je vais vous laisser vous partager le micro à deux et puis entamer justement le dialogue, l'échange avec le public. Alors, je vais passer le micro comme ça parce que comme c'est enregistré, c'est...
Moi, je voulais savoir par rapport au label bio, les gens qui veulent obtenir le label bio, il faut qu'ils payent. Il n'y a pas quelque chose de financier au niveau des éleveurs et...
Pour le label bio, pour l'obtenir, vous ne payez pas. C'est l'INAO qui vous l'attribue ou pas. Hein. Il y a une enquête sur vos pratiques d'élevage. Mmh. Et puis, on vous met dans une procédure de conversion hein, qui dure en général 3 ans. Ah, oui. Et à l'issue de cette procédure, vous obtenez le droit d'utiliser le label bio. Ah, oui. Donc ça, c'est public. Sauf que pour être en bio, il faut que la certification soit garantie par un organisme tiers. Et ça, vous payez.
Voilà, c'est ça. Il me semblait bien.
Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens ce contrôle annuel que vous avez sur votre exploitation, vous le payez, bien sûr.
Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il y en a qui ne peuvent pas le fait. Enfin, ils ne veulent pas
C'est certainement le label le plus contrôlé, oui, de ce point de vue-là, oui, c'est sûr. Mais le label rouge aussi est contrôlé. Hein. Ouais. Il y a aussi des visites de contrôle.
Alors, je voulais parler aussi de Yuka.
Oui.
C'est bien, mais quand vous allez dans un magasin bio comme Biocop, ben, oui. On a beau les scanner, ça fait rien du tout.
Bien sûr.
Voilà. Oui. Donc on ne sait pas parce que dans le bio, vous avez du pour et du contre. Par exemple, vous allez en supermarché, les petits gâteaux bio, eh ben, ils ont tous le Nutri-Score E, donc mauvais.
Oui, parce que le bio ne vous garantit pas une alimentation nutritionnellement meilleure.
Voilà, hein. D'accord.
Le bio vous garantit le respect de pratiques, mais il ne faut pas croire que parce que c'est bio, c'est bon. S'il y avait une enseigne qui avait
bon,
ce nom-là,
bon,
ce n'est
bon
pas vrai.
Et bio, oui.
Le bio ne vous garantit pas que c'est bon.
Hein.
Donc, c'est vrai que c'est le problème des magasins bio et de Yuka, parce que Yuka, vous savez, dans sa note, accorde 10% de sa note au fait que ça soit bio ou pas. C'est-à-dire que si votre produit est bio, ben la note monte de 10%. C'est tout. Et ils ne sont pas du tout versés vers ce type de magasin, c'est sûr.
Sur les supermarchés, quoi. En
fait. Ils sont plutôt sur les supermarchés traditionnels, oui. Ben, c'est là où est le public le plus important.
Oui, voilà.
Bonjour. J'avais entendu parler d'un... comme le code civil, mais pour les animaux. C'est quoi? C'est pour les animaux de compagnie ou c'est pour les animaux domestiques? On a un code... Il y a un code de l'animal qui est sorti il y a quelques années en arrière.
Un code de l'animal? Ah non.
Il y a quelque chose au niveau de la loi qui est sorti, je crois.
Non, il y a simplement les directives européennes, mais c'est tout.
Ah bon, j'ai dû me tromper alors. Merci.
Non, mais... juridiquement sur le bien-être animal, vous avez les directives européennes et c'est les seuls textes généraux. Après, vous avez des modifications ponctuelles. Et par exemple, je vous parlais du code civil qui avait introduit un article reconnaissant le fait que les animaux n'étaient pas de simples choses. Ça date de 2015, c'est récent, vous voyez.